Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à l'écoute de l'émission Bana Okapi. Fidèle auditeur et internaute de Radio Okapi, ce programme est dédié aux plus jeunes. Il est réalisé en partenariat avec l'UNICEF du lundi au vendredi, dès 15h30 à 17h. Nous parlons éducation, environnement, protection des droits de l'enfant, entrepreneuriat et santé. L'accès à l'emploi des jeunes demeure un problème crucial en République démocratique du Congo. D'après le dernier sondage YouReport du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, 78% des jeunes congolais n'ont pas de travail. En outre, 25% de jeunes ne trouvent pas des opportunités d'emploi dans leur filière d'études. Une analyse empirique de 2001 à 2020 par l'Université libre de Pays de Grand Lac, UPLGL à Goma. Le manque d'emploi et d'encadrement de la jeunesse sont à la base de beaucoup de maux dans notre société. À Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé mercredi 3 avril l'ouverture de travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle. À l'occasion, le président congolais a rappelé sa promesse des campagnes à créer plus d'emplois. Je suis déterminé à faire de mon engagement de créer plus d'emplois une réalité vivante durant ce quinquennat, avait-il déclaré. Que faut-il faire pour que le jeune ait accès à l'emploi en République démocratique du Congo? Nous en parlons dans votre émission de ce jour. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa sur la mise en onde de cette émission coproduite par Grace Mvuizolo, Sarah Sumbila, Clarisse Kapinga de la radio communautaire Nissi à Goma, Gisèle Cage est à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Moufelele Dijano. À la présentation, c'est Stanislas Diomi.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
En République démocratique du Congo, les taux de chômage avoisinent les 70% de la population active, d'après un récent rapport de l'Organisation internationale du travail. Avec une population de plus de 80 millions d'habitants, plusieurs dizaines de milliers de jeunes diplômés se retrouvent chaque année sur le marché de l'emploi sans en trouver. Cependant, le gouvernement congolais, à travers le programme Pays de promotion du travail décent pour la République démocratique du Congo de 2021 à 2024, compte mettre en œuvre de stratégie de développement à travers la promotion de l'emploi décent. Murfifika pour le détail.
Avec une population de plus de 80 millions d'habitants, dont un peu moins de 68% vivent dans le milieu rural, la République démocratique du Congo compte actuellement près de 70% du taux de chômage de la population active. D'après les données chiffrées fournies par le gouvernement congolais dans le programme Pays de promotion du travail décent, PPT2, pour la RDC de 2021 à 2024, 4% sont employés dans l'économie formelle, 72% œuvrent dans l'économie informelle et 24% sont des véritables chômeurs. Ces données disponibles sur le marché du travail illustrent un déficit qui caractérise le secteur de l'emploi en RDC. Selon le PPT2, le marché du travail en RDC se caractérise par un déséquilibre entre l'offre de la main-d'œuvre issue des ménages et sa demande exprimée par les entreprises et les administrations. Actuellement, en RDC, 6 personnes sur 10 sont actives, soit ayant un emploi ou étant en chômage. Le taux d'activité est plus élevé en milieu rural. Du point de vue de la structure d'âge, le taux d'activité atteint son maximum chez les personnes de 30 à 49 ans, autour de 90%, dont plus de 95% pour les hommes et plus de 85% pour les femmes, en croire le même document. Le taux d'emploi dans le secteur public est passé de 6,3% à 8,7% de manière globale en RDC. Par contre, par rapport aux entreprises privées formelles, le taux d'emploi est passé de 1,8% à 2,8% d'une manière globale avec 5,8% en milieu urbain. Quant aux jeunes congolais, ils sont confrontés à d'énormes problèmes pour trouver un emploi décent. Le nombre d'actifs occupés par les personnes en âge de travail en RDC est été estimé à 18,2 millions en 2005 et à 24,6 millions en 2012, dont 3,9 millions en 2005 et 7,2 millions en 2012 en milieu urbain. Le jeune, surtout des diplômés sans emploi, manque d'orientation, d'information et de soutien efficace pour développer eux-mêmes leur initiative. Quant aux pistes et des solutions, le gouvernement congolais, à travers le PPDTE, prévoit entre autres d'améliorer les secteurs de l'enseignement technique en améliorant les modules de formation existants tout en modifiant les curricula et de mettre en place un programme de développement d'initiatives créatrices d'emplois. Une attention particulière sera portée aux femmes et aux filles afin de réduire les inégalités entre hommes et femmes dans l'emploi. Via le dit programme, les autorités congolaises comptent promouvoir les opportunités pour les Congolaises et Congolais afin d'obtenir un travail décent dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Un rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD portant sur l'indice du développement humain IDH avait placé la RDC à la 176e place sur 188 pays au taux de chômage le plus élevé.
Merci Murphy Fika pour toutes ces précisions.
Okapi, Netabendi Yamani.
À Kinshasa, plusieurs jeunes chômeurs diplômés se sont lancés dans la création de petites entreprises pour leur survie. Ils encouragent d'autres jeunes d'emboîter leurs pas. Ils se sont exprimés au micro de Grace Mvuezolo.
Donc, chômage, les qui pour n'abîmer les jeunes vraiment, donc ils passent vraiment. Les jeunes, ils sont en classe, ils sont en a komi penati na ba niveau mo mais a se retrouvé na hotel ka babiloko mo boemke na misusu babiloko ngo tunati na te donc toza na position te biso ba jeune to tangi ba classe to tangi to na posa to bénéficier ata mo moke mais to bénéficier te to le la kaka chaque jour to zo le la kaka biso ba jeune yango moni ba jeune musupe a hotel la kete na kende kana lukana na kende akokote la batu na simba machete na kende sala bona sala boye pona pasi leki ba jeune ba komi moko mona kibo ko violer ko sala boye kokote la batanda ba machete bele ko simba jeune azo boma muninga ne jeune po ani ne po parce que soki pena kete position za kati amboka na biso boye gouvernement vraiment toza la position pende ezali ba jeune ba otambola bongo te ba jeune ba otande ti biso to tangi ba classe to na biso ya DCC mais en tout cas to za vraiment na position te position za te to tangi mais au monde sika mo to se retrouver bisika mo zo mona boté mi na ba cop bo sala net na ba vitoire kuna net to sala ba cop bo sala cop mais ba police ba zo landa bino okanga ba biloko boy okanga ba biloko mais au monde kete nyo surtout banda ko yango to futela ndako zo mata muta sali msusu ina ne na kata ndako esika wa futela mais ba mati ndako misala malonga pe tous en amoté donc il y a un peu de temps que tu vivre car bon ou en angoulou en zambé donc pas si car on a bisou la gêne et ça la passe vraiment le gouvernement et sur la bisou la gêne ou donc il toujours cocaté et sur la bisou.
Ah merci papa journaliste on a le gars le baboui gouvernement est premier tabi sur la gêne le bague était comme c'est la gêne millionnaire tissu co suite et zoé bana et banité. Dans un pays bien organisé, le gouvernement aura charge à la jeunesse. Il aura peine charge à la jeunesse. Ce qui est le total de député, soit disant que vous avez 21 millions, soit 21 combien, là, je ne sais pas. Mais ce qui est le total de policiers, de militaires, de militaires, de l'Est, le salaire est insuffisant. Akipe mwasi, akipe bana, combien il y a. Mais moto avant un parlement, il n'y a même pas qu'on vote la loi pour la jeunesse congolaise pour la population ba osalangote mi ba opesa yi mongo bilé ko lekana muto ki no ko défendre mboka soto total ba ensegna ba ba opesa biso mayele o ba koma ba député o bazali ba ministre o bazali salaire na bango eza moins eza insuffisant ezo ko kate lelo ba okondane biso ba jeune toza ba paresse tant que biso ba jeune toza ba paresse ni entreprise ba fongola ni ba compagnie zo ko permettre ke ba jeune ba lamuki na tongo ba bimi ba ke ba luki ba ye ko zonga ezate. Pourquoi pas biso le bazin de l'autre comme Bakuluna, toko ma miyibi, toko ma maboko milai. Cela veut dire que le gouvernement est en charge na biso jeunesse congolaise isaté. Bani ngozo charge na biso te. Alors c'est pour cela zomona ki bazin bazoko ma maboko milai, misusu bazoko ndoko yiba, misusu bazoko ndoko boma. Comment fait-il biso totanga ba classe to silici, to za ba diplôme, to za ba mikanda, mais le lot to kosuka na marché de la liberté, to kosuka ba coopérant na zandu, to kosuka ba misusu ba cordonnier. Cela veut dire misala na mboka ezate. C'est pour cela que nous avons chômage na mboka ezomata. Soto bito bima chaque jour transport du lundi au mardi ti to ke ne fait une semaine transport ezomata. Mutu na mutu atia transport na ndenge mutema ne sepeli. Na tongo ko kutango 1000 francs na poko kutango 1500. OK za mboka biso to koloba. Jeunesse toujours souffrir. Toujours souffrir, bape sa biso fautité, solo ba moni biso to simi machete, to simi boye, boye. Cela veut dire moyen de vivre exaté. Il rentre au sein de la gouvernement na biso et prendre charge de jeunesse congolaise. Et prendre charge de jeunesse congolaise, na ba première ministre, ba tiye libiso, na ye mongo chef de l'État, soit royoka, et ça la plaisir.
Frère, se présente, non, ma bien en Gustave Bekawa, tu n'es grandi à la province de l'Équateur, précisément Bandaga. Mais tout ça, à la Kinshasa, tout ça, la vie. Mais du tout, pour la jeunesse, non, regardez ma casse pour la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais, normalement, donc, il y a une jeunesse, dont ma autorité, donc, il y a lobby en boucle à haute. Parce qu'il y a un cadeau de jeunesse, donc, lobby en boucle à haute côté. Parce que, comme on a, la devise en boucle à haute, là, autour de prendre un chômage. Travail, mais là, comment le contraire, le chômage est content et remplace le travail. Donc, ils ont un peu pas support en boucle. Donc, tout lancé, quand moi, message en boucle à l'autorité, en boucle à haute, bah, mais à côté de la jeunesse. Parce que le lot Oyo, comme il y a un terrain à l'autorité, il y a un niveau basalé. Mais il y a un terrain qui détruit le monde quand il y a un salaire. Parce qu'il y a abandonné la jeunesse. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il faut le chef de l'État, monsieur le président, avec des respects. Avec tout le respect. Donc il faut que le temps là. Parce que moi, je promets à la jeunesse. Non, comme ça, il y a un milliardaire, un millionnaire. Mais le lot Oyo, il y a un peu de jeunesse. Parce que, au lieu de vivre à au lieu de se faire à toi, quand on a quitté le salon, mais tout ça parce que, là, c'est un mois d'âge, moi, Balaba, mon soumou, tout que, comment les cas, et quand on a été là, parce que, l'embouteillage est empêchant et déjoué. Donc, tout le monde s'en va, moi, tout s'attendait à quitter le salon. Donc, dans le côté, on a bientôt sa opinion, le chef, la conception, Moka, battre pour la jeunesse. Puis, non, Ming, non, le bien Ming, pour l'enseignement, Abisso. Parce qu'il y a pas des jeunes, il y a des jeunes enseignants. On va souffrir, on va subir na makam. On prend un salaire na bango d'enseignement. Au moins un enseignant, alors si on s'est trompé, c'est $500. Mais pas même pas premier au député, au sénateur, au ministre, à Zozoa. Où les gens qui montent ma ma bien dénigre pour que ça prenne jeunesse. Bolam au enseignant bas au sal. Pour les députés, aux députés, aux enseignants. Tout dépend de l'enseignant, au bas âge, j'ai veillé à l'hôtel, tout va prendre la jeunesse. Il y a des jeunes enseignants, on a pas cela. Parce que nous, on a dans un simple décis, dans la pédagogie, quoi. Mais si on a taillé, on a servi, on a servi la faculté, on a servi, on a souffert. C'est maintenant, c'est débrouillé à. Mais il y a tout le monde, les jeunes, ils sont mis dans ma chute, parce que, donc, je suis été chômage, je suis mis dans ma chute. Parce que, là, si je suis mis dans ma chute, je suis mis au moins, je suis mis dans ma chute. Bonsoir, ma chère Titi. Ils ont passé au Nazar, au vendeur, dans son temps, dans un vendeur. Un jour, bien, ils ont utilisé la société, bien sûr, dans une île, mais ce n'est pas au nez, n'a pas ça qui. On a passé un chef d'État, bossou, avec un des six, à sa peine, à droit au travail, à sa utilisé la société. Bah, entreprise, au Nazar, bisou, papa, tous aux îles.
Radio Okapi.
Mais pour Monsieur Roger Marcel, le jeune entrepreneur de Kinshasa, les jeunes ne doivent pas tout attendre de l'État congolais. Il les exhorte à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il est au micro de Grâce Mvouezolo.
Vous savez, en République démocratique du Congo, plusieurs jeunes aujourd'hui ne se retrouvent pas parce que lorsque vous finissez avec vos études, pour trouver quand même un boulot, c'est tout un grand problème. Malgré les efforts que l'État congolais fournit, même le chef de l'État, au début de son mandat, il avait promis quand même que les jeunes pouvaient se retrouver. Vous pouvez quand même faire une classe de millionnaires de jeunes, mais pour le moment, sur le terrain, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Mais à part cela, quand même, il y a quand même les jeunes qui se débrouillent. Si je prends quand même mon exemple, quand j'ai vu quand même que j'ai fini avec les études que je ne pouvais pas traîner à la maison, je me suis mis aussi à chercher au moins quelque chose pour au moins survivre. C'est pour cela que je me suis lancé dans le domaine de vente des unités, faire les services Mobile Money, Orange Money, Airtel Money, M-Pesa et puis échanger aussi le monnaie. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé quand même pour quand même survivre à mes besoins quand même. Moi, je trouve quand même que les jeunes qui restent quand même à la maison, qui ne fait pas quand même quelque chose, ce n'est pas bon. On dit quand même si on commence quand même avec un petit rien, avec votre votre intelligence, avec tous les moyens que vous mettez toujours en place, je pense quand même que vous pouvez quand même se retrouver au lieu de rester, au lieu de, en train de demander, en train de voler. Moi, lorsque je vois un peu ce genre de jeunes quand même, qui fait un peu ce genre d'actes-là, ça ne me plaît pas toujours. Malgré que dans notre pays, avoir quand même du boulot, c'est un casse-tête. Mais on ne peut pas toujours se limiter. Aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, quand même, il y a quand même, on a quand même la maison de l'entrepreneur au niveau de première. Si vous avez quand même votre projet et puis vous allez là-bas, que si vous avez, si vous êtes soutenu quand même, vous allez quand même se retrouver quand même. Moi, je trouve à ce niveau-là, quand même, il faut que les jeunes se trouvent quand même, se donnent quand même au domaine de l'entrepreneuriat pour ne pas quand même manquer quelque chose.
Depuis combien de temps êtes-vous en chômage?
Oui, je pense que lorsque j'ai fini mes études, ça prend maintenant plus de 2 ans ou 3 ans que je suis toujours dans le chômage. C'est pour cela que je me suis lancé dans ce domaine-ci, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement comme piste et solution?
Ouais. Malgré moi, je pourrais quand même proposer à notre gouvernement, malgré qu'avec l'arrivée de l'arrivée des chefs de l'État, il a quand même multiplié quand même, qui pouvait quand même à soutenir quand même les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais quand même sur le terrain, on n'a pas constaté ça. Malgré tous les efforts fournis, bon, je pense que l'État congolais pouvait quand même toujours multiplier toujours le chef de l'État a promis ça, même dans le deuxième mandat, qu'il puisse quand même faire fournir quand même les efforts, parce que la République démocratique du Congo, ce n'est pas quand même la ville de Kinshasa. La République démocratique du Congo compte quand même les 26 provinces. Si vous regardez quand même aujourd'hui à Kinshasa, mais il y a quand même d'autres provinces aussi que les jeunes aussi peinent aussi à trouver quand même du boulot. On a quand même l'UNGE, qui pouvait aussi se focaliser un peu dans ce domaine-là quand même pour donner quand même aux jeunes du boulot, mais on ne constate pas quand même le même sur le terrain. Je pense que si l'État congolais pouvait encore toujours fournir un peu beaucoup d'efforts, on pouvait quand même avec la nouvelle première ministre, avec son arrivée quand même, qu'il puisse quand même se marteler quand même pour que les jeunes puissent quand même trouver quand même du boulot. Je pense que ça pourrait quand même être content quand même, parce qu'avoir en main 2 millions de jeunes qui n'ont pas encore du boulot à ce niveau, c'est toujours un grand problème dans notre pays.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bana Okapi se poursuit sur Radio Okapi. L'accès à l'emploi des jeunes demeure un problème crucial en République démocratique du Congo. D'après le dernier sondage YouReport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 78% des jeunes congolais n'ont pas de travail. En outre, 25% des jeunes ne trouvent pas des opportunités d'emploi dans leur filière d'études. Une analyse empirique de 2001 à 2020 par l'Université libre de pays de Grand Lac, UPLGL, à Goma. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa continue d'assurer la mise en onde de cette émission. Je suis Stanislas Diomi à la présentation. Dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, des milliers de jeunes diplômés se retrouvent sans emploi après leurs études. Pour survivre, certains jeunes diplômés n'hésitent pas à rejoindre les groupes armés qui pullulent à l'est du pays. C'est l'une des conséquences du chômage selon certains experts. Les précisions de Gisèle Cage dans ce papier rendu par Greta Lulendo.
Dans la province du Nord Kivu, la guerre Kanyarwanda de 1963 à 1965, le massacre de 1993 à Ntoto, l'arrivée massive des réfugiés rwandais en 1994, l'offensive de l'AFDL en 1996, la guerre RCD-Goma en 1998, les guerres du CNDP, du M23 ont conduit à la fermeture de plusieurs entreprises et fermes d'élevage. Les territoires de Masisi, autrefois grenier du Zaïre, celui de Rutshuru, de Beni, Lubembo et Walikale, sont devenus à ces jours le champ de bataille des combattants. Cette situation a occasionné une cassure sociale, d'après l'Union nationale des travailleurs du Nord Kivu. Plusieurs jeunes sans emploi se sont déversés dans les groupes armés, soit pour leur survie, soit pour défendre leur communauté respective, d'après leur témoignage. La province de l'Ituri n'est pas non plus épargnée par cette situation. Les tensions entre communautés locales de 1999 ont poussé de nombreux jeunes à prendre les armes. D'après un article de RTN, à ces jours, les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika abritent 252 groupes armés locaux et 14 étrangers, avait affirmé le coordonnateur du programme du désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, Emmanuel Tony Tambwe Ushindi. La majorité des membres de ces groupes sont encore jeunes. Leur démobilisation aussi pose problème, faute de moyens.
Greta Lulendo, merci pour ces précisions. Monsieur Yves Daniel Ngavani, coach en performance professionnelle, est aussi de cet avis que les jeunes doivent créer leurs propres entreprises. Il s'entretient avec Grace Mvuezolo.
Docteur Yves Daniel Ngavani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach en performance professionnelle. Quel est l'état des lieux d'employabilité des jeunes en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup pour l'invitation et l'intérêt que vous portez à cette thématique qui est non seulement une thématique de vie, mais aussi d'actualité. Parce qu'on a vu avec le deuxième quinquennat du président de la République, il a inscrit parmi ces six priorités, la question liée à l'emploi. Je pense que cela nous interpelle au plus haut niveau, nous, en tant qu'experts et la population de manière générale, de constater que l'emploi doit devenir et doit être tout le temps la préoccupation essentielle si nous voulons sortir de la pauvreté, mais également donner la chance pour un avenir radieux, surtout en ce qui concerne le jeune. Donc l'état des lieux n'est pas très 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 bon parce que depuis ces deux ou trois dernières décennies, notre pays a fortement régressé en termes d'employabilité, mais aussi en termes de la qualité du capital humain. Le contenu local en termes de compétences souffre du fait, premièrement, nous avons connu des pillages à l'époque qui a détruit toutes les industries que nous avons sous Limité, sur Kingabwa et vers Maluku, qui a mis au chômage des gens jusqu'aujourd'hui, ça fait presque trois décennies. Ces industries ne sont jamais revenues. Et cela constitue un problème majeur en ce qui concerne l'employabilité, mais également avec notre système éducationnel qui n'a pas du tout évolué en termes de contenu et de pratiques, sauf en termes de changement des thématiques et parfois des approches. Cela ne fait qu'accentuer le taux de chômage parce que nous avons des jeunes qui finissent les universités avec des diplômes. Mais in concreto, ces diplômes ne servent presque à rien parce que c'est en adéquation avec le réalité de la vie professionnelle. Quand nous allons au niveau des institutions et services de l'État, nous constatons aussi une sorte de léthargie en ce qui concerne par exemple le ministère de l'Emploi, qui est de plus en plus très politisé et non technique, ce qui fait que ils ont du mal, ok, à cerner à bras le corps tout le problème et les méandres ayant trait à la question de l'employabilité, ce qui fait que nous n'avons pas un répertoire national aujourd'hui où vous pouvez voir secteur par secteur. On a répertorié le nombre de chômeurs depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas un référentiel très clair et très connu de tous sur la question de l'employabilité au niveau pays. Nous n'avons pas un registre assez sérieux d'enregistrement, nonobstant le carte que l'on aime remet pour aider foncièrement les personnes à pouvoir s'enregistrer sur l'échelle nationale. Donc, de tous ces éléments, je peux dire que la situation de l'employabilité au niveau de la RDC semble stagner parce que, en dépit de la bonne volonté exprimée par les uns et les autres, notamment le président de la République, nous constatons que sur le terrain et sur le plan pratique, beaucoup reste à faire pour pouvoir effectivement passer de simples intentions aux actions pratiques et réelles, et cela permettra effectivement de faire avancer ces secteurs.
Qu'est-ce qui doit être fait pour permettre à beaucoup de jeunes d'intégrer le monde professionnel?
Premièrement, ce qui doit être fait, c'est en dépit de la bonne volonté politique exprimée par le président de la République, le service rattaché à la question liée à l'emploi, d'être actif, voire proactif. Il ne faudra pas qu'ils dorment sur leur laurier, comme eux ils ont du boulot, mais ils doivent savoir qu'eux ils ont du boulot pour donner du boulot aux autres. C'est ce qui ne se fait presque pas. Nous avons des structures qui sont trop bureaucratiques et qui ne sont pas sur le terrain pour voir, discuter, récolter des informations, orienter et aider la population juvénile et aussi les demandeurs de l'emploi à avancer. Donc, au niveau de structures et services de l'État, il faudra beaucoup d'innovation, beaucoup de technicité et moins de politique. Il fallait laisser place à la compétence qu'à des nominations sur base des acquaintances et des listes des partis politiques. Mais on doit plus aller dans le sens de la méritocratie pour que ces services de l'État puissent fonctionner. Mais il faut aussi donner des moyens à ces services pour qu'ils soient à même d'appliquer leurs politiques afin d'avoir des programmes assez sérieux qui correspondent aux réalités de demande de l'emploi dans notre pays. Mais également, il faudra qu'on travaille sur le contenu local en termes des informations que nous donnons à nos jeunes dans le parcours éducatif. Si notre système éducatif reste tel qu'il est, on aura du mal à avoir de bons professionnels qui peuvent intégrer facilement la vie professionnelle parce que c'est beaucoup plus théorisé et moins de pratiques. Et ensuite, la qualité même de cet enseignement laisse à désirer du fait de la corruption, de toutes les mauvaises pratiques que nous cessons de décrier au jour d'aujourd'hui. Mais aussi, il faudra qu'on travaille dans l'optique de créer suffisamment des emplois. Et là, la création des emplois, ce n'est pas seulement l'État qui doit créer, parce que l'État peut s'étendre avec l'ouverture de l'administration publique et consorts, mais l'État doit faciliter aujourd'hui la promotion de l'entrepreneuriat, faciliter le climat des affaires pour qu'il y ait un retour massif des investisseurs, pour créer des entreprises dans les domaines, par exemple, de grande consommation publique, notamment l'agriculture et autres. Et cela aura une forte incidence sur le retour de l'emploi. Et ça va faciliter, effectivement, aux jeunes de retourner au travail de manière plus rapide et plus efficace.
Et quel est votre point de vue sur l'Office national d'emploi et à tous les autres projets de recrutement des jeunes?
L'Office national de l'emploi, qui est l'émanation de beaucoup de traités sur le plan international et que nous avons appliqué dans notre pays, semble être une très belle structure du point de vue intention. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quelques années, cet office a été très inactif du fait qu'on ne le sentait presque pas. Il n'arrivait pas à remplir correctement ses missions. Et je crois que nous avons fait beaucoup de missions pour essayer, non seulement qu'on est contre les individus, mais pour montrer que l'ONEM, qui doit être en principe une chance pour la République, avait sombré dans le clientélisme, dans des choses qui n'étaient pas très catholiques, qui communiquaient moins. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même heureux et nous apprécions le nouveau leadership de l'ONEM, qui est un leadership jeune et qui arrive quand même avec des innovations, qui commence à faire bouger les choses. C'est la toute première fois de voir l'ONEM organiser une grande activité où le président de la République lui-même préside et il fait certaines promesses fermes par rapport au secteur de l'emploi. Je pense que c'est déjà un bon signal que l'ONEM venait de nous présenter, mais moi, en tant que technicien, je ne me satisfais pas des colloques, des salles, des discours politiques, mais je veux voir la concrétisation de toutes ces choses sur le terrain. Notamment, nous devons avoir un fichier national de tous les chômeurs, secteur par secteur, d'avoir un plan prévisionnel des emplois à l'horizon 2050-2060. Nous voulons voir une nouvelle stratégie d'enregistrement des chômeurs parce que l'ONEM n'est pas sur toute l'étendue de la République. Ceux qui n'ont pas de bureau, comment ils peuvent s'enregistrer comme chômeurs, mais aussi ceux qui sont dans la diaspora. Nous voulons voir l'accompagnement de l'ONEM par rapport aux demandeurs de l'emploi. Une fois qu'ils ont leur carte, comment l'ONEM fait pour pouvoir les encadrer. Mais nous voulons aussi voir l'ONEM dans une sorte de jouer son rôle de passerelle entre le système éducatif et le monde professionnel pour essayer d'équilibrer les choses et essayer de dompter un peu la question de l'expérience professionnelle aujourd'hui qui hante les esprits et qui trouble pratiquement les jeunes. Donc il y a beaucoup de champs d'action sur lesquels nous, en tant qu'experts, nous attendons voir l'ONEM et afin de réaliser ses missions, il ne sera que pour le bonheur de nous tous et surtout de notre jeunesse qui a vraiment besoin de l'emploi pour son développement et pour rassurer et assurer l'avenir de notre pays.
En tant qu'expert en performance professionnelle, quels sont les moyens que vous mettez en place pour que le jeune accède à l'emploi?
D'abord, le premier moyen à notre niveau de notre politique, c'est la communication. Nous faisons énormément de communication et là, je remercie la Radio Capi dans son ensemble qui, depuis 2014, ça fait 10 ans que je suis régulièrement consulté et à la Radio Capi, donc et que je partage ma modeste contribution en termes de réflexion avec nos compatriotes. Nous faisons des communications d'orientation, que ce soit sur le média, mais aussi à travers notre business school qui a déjà dépassé 50 000 jeunes que nous avons pu encadrer et intégrer, que ce soit au pays, à l'étranger, dans les systèmes professionnels. Et aussi, certains ont créé des entreprises, ont donné du travail aux autres. Donc, en dehors de la communication, la sensibilisation, que ce soit pour encourager les demandeurs d'emploi, mais aussi encourager l'État à prendre des mesures idoines pour permettre à ce que le secteur de l'emploi ne soit plus parent pauvre, mais que soit plus au sérieux. Nous avons des structures que nous pilotons, que nous accompagnons, nous encadrons la jeunesse et que nous appuyons aussi dans certains cas pour que les jeunes améliorent leur capacité d'employabilité, mais aussi de pouvoir entreprendre pour être eux-mêmes aussi des créateurs d'emplois. Donc voilà un peu le travail que nous faisons en dehors de consultances auprès des organismes qui œuvrent dans ce sens pour leur donner aussi certaines orientations techniques.
Docteur Yves Daniel Ngavan, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Capi ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Capi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
L'entrepreneuriat des jeunes est au cœur de priorités politiques en République démocratique du Congo, car c'est un moyen de favoriser la compétitivité et l'emploi. Ce qui justifie tout le fonds alloué à ce domaine. Est-ce que entreprendre peut régler les problèmes de chômage en République démocratique du Congo? Le coach en entrepreneuriat, Dieu merci Kiloubou, répond à cette question et à bien d'autres encore au micro de Sarah Soumbila.
Monsieur Kiloubou, pensez-vous que l'entrepreneuriat peut régler le problème du chômage ici en RDC?
Bien sûr que oui. Je pense que l'entrepreneuriat, une fois qu'établi comme il se doit, ça peut être une sorte de solution à ce qui concerne le chômage dans notre pays. Je pense que c'est fort possible. Parce que si vous faites une sorte d'analyse en termes de comparaison, même le pays auquel la plupart des Congolais veulent se rendre, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément l'État qui doit tout le monde, qui prend tout le monde en charge. Quand vous attendez peut-être un Congolais qui se trouve aux États-Unis, qui vous dit que il peut travailler 3, 4, 5 fois la journée ou dans 5 entreprises, c'est par le simple fait qu'il y a beaucoup de particuliers, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont mis ensemble et qui ont créé pas mal d'entreprises. Ce n'est pas forcément l'État. Donc, partant de cet exemple, je pense que l'entrepreneuriat peut aussi être une réponse pour la pauvreté, même le chômage de notre pays. Donc, ça peut aller.
Comment l'entrepreneuriat peut être une solution au problème du chômage dans le cas de la RDC?
Tout d'abord, je pense que, comme je l'ai dit tantôt dans l'émission que j'ai faite la fois passée, cela peut devenir une sorte de solution dans la mesure où cela devient comme une partie intégrante de l'homme congolais. Vous comprenez? Vous voyez comme par exemple aujourd'hui, la musique, c'est quelque chose qui est reconnu presque à tout Congolais. Mm-hmm. Donc, que vous soyez une personne sérieuse ou pas, tout le monde sait au moins soit danser, soit chanter. Alors, si l'entrepreneuriat aussi devient quelque chose qui fait partie de nous, c'est-à-dire que dans le peu que nous pouvons avoir, dans tout ce que nous pouvons avoir, l'idée d'entreprendre résonne à nous, ça pourrait être un élément de transformation dans notre pays. Donc c'est vraiment question de perception, mais aussi de comprendre l'importance de l'entrepreneuriat. Pourquoi je le dis? Parce que un homme peut avoir par exemple 5 000 $, 10 000 $, et ben il se permet de vivre comme si les choses resteront ainsi pour toujours. Mais celui qui a la mentalité managériale, il sait qu'il peut se retrouver avec 5 000 $ aujourd'hui, mais pour les retrouver encore, peut-être ça lui prendra encore 2 ans, 3 ans. Alors avec ces mêmes 5 000 $, il peut fonctionner, établir un système qui peut lui permettre de vivre pendant 3 ans encore. Vous comprenez un peu ça? Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avec avec l'entrepreneuriat, vous avez 1 000 $. Ben, vous les bouffez comme ça. J'ai 1 000 $. Les mêmes 1 000 $ peut m'aider à vivre pendant 5 ans, ou pendant 2 ans, ou pendant 6 mois. Vous comprenez un peu? C'est que celui qui n'est pas entrepreneur ne saura pas faire. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez le cas d'un Congolais lambda, un citoyen normal. Vous lui donnez par exemple 100 $, et vous revenez au bout de 2 semaines. La personne ne saura plus garder cette somme. Mais si vous observez la personne, pendant qu'elle n'a rien, peut-être elle peut vivre durant 2 semaines rien que de 50 $. Mais quand vous lui donnez ça du coup comme ça, les garder pendant 2 semaines, la personne ne sait pas le faire. Donc c'est une forme de maladie. Et cette maladie ne peut être traitée que par la connaissance de comment fonctionne l'entrepreneuriat.
Comment le gouvernement peut faire pour venir en aide aux entrepreneurs?
À ce qui concerne le gouvernement, personnellement, je pense que il faut tout d'abord redéfinir le système éducatif. Le système éducatif que nous avons n'est pas adapté pour, je dirais, créer des entrepreneurs. Le plus important, ce n'est pas d'abord de venir en termes d'aide sur le plan. Trouver des gens à qui vous allez remettre de l'argent pour qu'ils entreprennent. Ça, c'est quelque chose qui doit venir peut-être en deuxième lieu. Mais en premier lieu, l'État doit définir un système. Je m'explique. L'État peut se dire, dans 15 ans, dans 30 ans, quel type d'homme que nous voulons réellement créer. C'est ça qui importe. Si nous avons un système selon lesquels on ne sait même pas quel type d'homme que nous voulons avoir dans 5 ans, dans 10 ans. On risque de faire des choses juste pour le faire. Mais si l'État séduit dans 15 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, voilà ce que nous voulons. Former des hommes et des femmes qui, après avoir fini leurs études, ils ne vont pas entendre quelqu'un d'autre, voyez-vous, pour commencer à travailler. Je pense que ça serait un élément de détail. Et dans ce sens-là, ça va nécessiter, dans la part du gouvernement, une sorte de planning. Il doit y avoir un plan d'élaboration, un plan bien établi. Quelles sont des matières nécessaires qui doivent travailler des hommes et des femmes? Je vous donne un exemple très simple. Pendant que nous sommes là, nous envoyons nos enfants à l'école. Ils apprennent le français, l'anglais, beaucoup d'autres choses. Mais un Libanais peut prendre son enfant de 13 ans, de 14 ans. Quoi qu'il parte à l'école, mais quand il revient, il reste encore au niveau du magasin. L'enfant voit tous les mouvements commerciaux, toutes les transactions. Au bout de 5 ans, 6 ans, lorsqu'il a 17 ans, il commence sa petite entreprise. Et nous, quand on finit, on a les diplômes, mais on attend quelqu'un d'autre qui va donc nous engager. Et c'est ce qui fait que vous trouvez quelqu'un qui a des diplômes, qui a la connaissance, mais qui est embauché, qui est engagé par celui qui n'a même pas fini ses études. Alors, l'État doit trouver une sorte de mécanisme de solution. L'État doit se dire que les hommes que nous avons formés jusque-là, ils ne sont pas faits pour la transformation de la notion en termes de création des entreprises. Maintenant, quel type d'hommes que nous voulons? Quels sont les moyens nécessaires du point de vue didactique? Du point de vue tout ça pourrait faire en sorte que dans 5 ans, dans 10 ans, que l'État puisse être en mesure de faire la différence. La différence ne peut pas arriver d'une manière fortuite, d'une manière arzadeuse. Non, ce n'est pas avec des mots et des paroles. Au-delà des mots et des paroles, il doit y avoir une planification que nous pouvons mesurer, je dirais, par temps des années même. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je pense que ça serait une très bonne chose si jamais on touche notre système éducatif en mettant des éléments nécessaires en rapport avec l'entrepreneuriat. Voilà.
Si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui sont au chômage actuellement, qui vous écoutent à la maison, ce serait lequel?
En tout cas, avec beaucoup d'humilité, je peux dire que être vraiment chômeur, dans une certaine manière, ça signifie qu'on a un problème en termes de pensée, franchement. Parce que chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Nul n'est vide, franchement. Nous avons quelque chose à nous et autour duquel ou dans lequel nous sommes censés travailler. Vous savez, ce qui pose un sérieux problème, c'est que beaucoup de jeunes pensent à la grandeur et ils veulent s'y retrouver de manière automatique. Et c'est ça la grande difficulté. Il y a un passage qui dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, qui va te confier des grandes choses? Beaucoup de jeunes ont du mal peut-être à commencer petit. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous commencez avec 100$ ou 30$, genre, vous vendez seulement des boudins. Les jeunes se disent, mais la vente de ce boudin, comment est-ce que ça peut m'amener à la granaire? Alors que ce que la personne oublie, des fois, ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui comme un commerce qui va t'amener forcément à la granaire. Mais la personne que tu es en train de devenir en faisant cela peut attirer maintenant la grandeur. Ce passage qui dit que si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera de grandes choses. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas la petite chose que tu as qui va forcément devenir grande. Non, mais la personne que tu es devenue en faisant cette petite chose est maintenant capable de gérer des grandes choses. Et c'est alors que la nature, Dieu lui-même et tout le reste, ça va aller comme ça. C'est comme pour dire que les jeunes doivent se mettre au travail, même avec des choses qu'ils jugent des fois inutiles. Mais ce sont les mêmes choses qui vont les fabriquer et qui vont les établir. Être chômeur, dans une certaine manière, c'est mal pensé, franchement. Voilà.
Au Capi. Encore plus d'infos. L'Office national de l'emploi, ONEM en sigle, est une structure de l'État congolais dont les missions ne sont pas bien connues par le public. De nombreux demandeurs d'emploi détiennent des cartes de l'ONEM, mais sont toujours au chômage depuis plusieurs années. Cependant, l'emploi des jeunes est parmi les priorités du deuxième mandat du chef de l'État. Quelles sont les stratégies mises en place par la nouvelle équipe dirigeante de l'ONEM pour résorber le chômage des jeunes ? Jody Kachama s'entretient sur ce sujet avec Eric Mungumba Kitingé, directeur technique de l'ONEM, Stanislas Kapena Dibondo, chef de service chargé de la coordination des offres d'emploi, a également participé à cette interview.
Déjà, l'ONEM, il fait du travail, il accomplit tant soit peu ses missions d'aider les demandeurs, d'aider les entreprises. Mais monsieur le journaliste, monsieur Jody, comment voulez-vous que l'ONEM travaille à plein régime lorsque les moyens sont exigus? Ça, c'est la première préoccupation. L'ONEM, j'ai suivi quelqu'un dire qu'ils ont les moyens de l'État. Mais il devait aller jusqu'au bout. C'est quel moyen de l'État? L'ONEM, c'est 0,2% de l'enveloppe salariale chaque mois des entreprises. Encore faut-il avoir toutes les entreprises avec vous. Vous savez comment les entreprises fuient toujours les fiscs. Donc, c'est ça. Alors que c'est 0,2%. Je vous ai dit que l'ONEM est dans 23 des 26 provinces. Mmh. Et à part les réseaux provinciaux, il y a les antennes. Comme au Congo central, il y a à part Matadi, vous êtes à, on est à Bandangongo, on est à Bouma, on est à Mwanda.
Quelqu'un a déploré de Bounia. Il a dit, mais pourquoi c'est toujours dans les chefs-lieux? Pourquoi pas dans les territoires?
On y vient parce que l'OIT a recommandé l'extension jusqu'au... Mais je vous parle déjà des problèmes de moyens. Parce que vous prenez les 26 les 23 provinces. C'est des loyers. L'ONEM est locataire partout. OK? Ça, c'est les loyers. À part les loyers, il y a les imprimés des valeurs. La fameuse carte, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mmh. Parce que les services de l'ONEM sont gratuits. Ça veut dire que dans ce qu'on vous donne, vous devez tout faire. Et les imprimés de la carte, le DMT, donc déclaration du mouvement des travailleurs, l'attachement, déclaration annuelle de la situation de main d'œuvre. Les entreprises les récupèrent gratuitement, sans parler des consommables, sans parler des fournitures. Et puis après, il faut trouver un petit transport pour permettre aux agents de l'ONEM de venir. Avec 0,2%, comment voulez-vous que l'ONEM y arrive? Ça, c'est la première question. Mmh. Je vais de manière ramassée. Mais je vous dis, à un moment, on a essayé de donner l'argent, un peu de moyens à l'ONEM. Le monsieur a parlé du programme financé par la Banque mondiale. Je corrige que c'était pas la Banque mondiale. Les projets étaient interrompus à cause de l'interruption du financement. C'était la BAT.
Quand on a donné... Financer un projet de formation.
Oui, et je vous dis que quand on a donné un peu de ce mois à l'ONEM, l'ONEM a prouvé de quoi il était capable. Mmh. Nous sommes à la radio, au Capi, c'est très suivi. Aller à Ekuti, BCDC, aller à Kempinski, Fleuve Congo, il y a des entreprises, aller à Tembe, qui ont, à l'occasion de ce programme, recruté beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui, aujourd'hui, assument des postes de responsabilité, qui sont passés par ce programme-là. On n'a pas caché l'information, c'est passé. Et comment les autres sont venus? Mais malheureusement, comme je vous ai dit, ça devait s'étendre en province, mais bon, vous connaissez les régimes politiques, et à un moment, on vous dit, les financements étaient interrompus. Comme ça, les espoirs des jeunes sont envolés. Donc, lorsqu'on a donné un peu de moyens, l'ONEM a fait des choses qui, aujourd'hui, réjouissent. Si aujourd'hui, ces gens-là qui travaillent, aujourd'hui, qui sont payés, qui occupent des postes de responsabilité, apprennent qu'on dit de l'ONEM qui fait rien, ils peuvent même vous traduire en justice. Ça, c'est la première preuve. Deuxième, monsieur Jody, comment voulez-vous que l'ONEM travaille, comme il se doit appeler un régime, quand il y a à côté la sous-traitance? Il n'y a rien qui tue l'emploi aujourd'hui à RDC comme la sous-traitance. J'ai appris qu'il y a un ambassadeur de la sous-traitance qui est passé. J'aimerais vous mettre au défi, organiser une émission sur la sous-traitance, inviter les messieurs, faites les téléphones ouverts, écoutez les impressions des gens sur la sous-traitance. Parce que là, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ok, Zanzibar même, c'est bien. Parce que moi, si j'ai un conseil à donner au chef de l'État, s'il veut sauver l'emploi, on le félicite. L'ONEM est motivé quand il a appris que le chef veut travailler avec lui. Il veut le renforcer. Les agents de l'ONEM sont très contents, motivés. Nous voulons lui demander d'arrêter, de suspendre la sous-traitance. Parce que je vais vous expliquer c'est quoi après. Qu'il préconise les services privés de placement parce que là, il fait les demandes. Ou à la limite, l'intérim. La sous-traitance, vous savez c'est quoi? Vous.
Bon, la sous-traitance, beaucoup de gens ont l'idée que c'est seulement les placements, voilà. Non, mais on a besoin des travailleurs, une entreprise fournie, mais c'est au-delà. Ça touche plusieurs secteurs, plusieurs choses.
Oui, mais pour le cas de l'emploi, on parle du cas de l'emploi ici. Mm. Là, le mal que la sous-traitance fait à l'emploi et tue l'emploi, c'est comment? Vous, ici à Radio Capi, un jour vous allez voir votre chef, vous dites, voilà, finalement, vous ne dépendez plus de moi. vous dépendez d'une structure, mais vous continuez de faire le même travail avec les mêmes volumes, mais désormais les salaires, les avantages, vous voyez l'autre. Qu'est-ce qui se passe après?
Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes dans ce côté-là. D'accord, je reviens à vous.
La vérité que nous devons dire aujourd'hui.
D'accord, tout à fait, je
comprends. Je vais terminer. Allez. Donnez-nous le temps. Moi, je suis venu à l'émission avec tout le temps. À un moment, il s'est disparu, vous êtes allé le chercher. Pourquoi vous ne voulez pas que nous on termine?
Non, laissez également, monsieur Kitenge s'exprimer.
Je termine juste la suite de temps.
Allez-y,
continuez.
Allez-y.
OK? Alors, aujourd'hui, donc, vous allez voir maintenant, l'entreprise sort 1 000 $ pour vous. Mais quand votre société de sous-traitants vous paye, c'est 150 $. Ne soyez pas étonné de voir les trucs de gardiennage de supermarché quand vous sortez, dit à moi, maille. OK? Vous voyez un monsieur qui travaille à la station, il est pompiste, mais il vous dit, trouvez-moi du travail. Mais vous travaillez déjà, mais parce que pourquoi? C'est mauvais traitement, cette maltraitance des travailleurs qui tue l'emploi. Alors que c'est différent avec les SDP, on va y revenir.
D'accord.
Donc, c'est un gros défi. Alors, je termine avec ça, la sous-traitance. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Si vous creusez, vous êtes un journaliste de terrain, donc, allez faire des recherches. Vous allez constater quoi? Dans l'entreprise, il y a un chef qui, lui, est le chef de la sous-traitance. Sinon, il a des parts ou il a la rétrocommission. Alors, vous allez voir que quand il y a des offres, il ne va pas accepter que l'ONEM vienne avec les candidats de l'enregistrer. Il va accepter parce que là, il a des intérêts.
Il a ses intérêts.
Ça tue l'emploi. Okay, ça empêche l'ONEM de travailler. Ça, c'est des défis, c'est des difficultés.
D'accord.
Il y en avait d'autres.
Monsieur Kitenge, oui, on va y revenir. Monsieur Kitenge.
Oui, merci. Je suis venu poser certaines questions. Je ne veux pas revenir sur ce que M. Stanier a bien développé. Alors, je veux quand même qu'on mette l'accent sur la carte.
Oui, parce que beaucoup de gens
comment les gens comprennent le problème de la carte? Est-ce que une carte, c'est ça un objectif? Quand vous avez la carte d'élève, c'est la carte d'élève qui vous permet de passer d'une classe à une autre? Non.
Beaucoup de gens avaient l'impression que la mission de l'ONEM, c'était pas à délivrer des cartes.
En fait, la carte, c'est juste une preuve. Vous comprenez un peu? Donc, quand on vous donne la carte, nous avons besoin de tous les demandeurs qui viennent s'enregistrer chez nous. Vous savez pourquoi? C'est pour avoir les informations. Quelles sont ces informations? Comme ça, à la fin de la période, lorsque nous devons publier nos statistiques, nous pouvons dire que, OK, on a enregistré par rapport à tel niveau d'études, par rapport à telle filière d'études, et ça aide l'ONEM à donner des conseils au gouvernement et aux demandeurs d'emploi, ainsi qu'aux entreprises.
Quelqu'un vous a posé la question de savoir, est-ce que l'ONEM a un référentiel?
Je venais de dire postes. Que son excellence, madame la ministre, venait de lancer, pour la première fois depuis que le pays est pays, ce qu'on appelle le ROM. Ça signifie répertoire opérationnel des métiers et des emplois. C'est une liste des emplois et des métiers. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que je vais trouver du travail, mais chaque travail a un nom. Et c'est dans ce répertoire-là. Vous comprenez un peu? Alors aujourd'hui, quand je vous ai parlé de projet, si aujourd'hui il y a un projet, c'est grâce au répertoire que nous allons vous dire, voilà les postes qui seront disponibles. Je prends par exemple, nous avons le bateau de pêche. La personne qui conduit, on doit donner son nom, c'est un matelot, c'est un chalutier, ainsi de suite. Et nous, non seulement nous vous donnons la nomination des postes, mais aussi la formation qu'il faille. Par exemple, aujourd'hui, nous pouvons donner conseil à ce qu'on puisse réhabiliter ou remotiver, quoi ça, l'école de navigation. Et puis, deuxièmement, en Afrique, pas seulement au Congo, nous avons ce que nous appelons l'inadéquation formation-emploi. Les gens ne savent pas, quand vous optez pour une option, pour une section, vous ne savez pas quels sont les besoins du marché de l'emploi. Vous avez fait la théologie, mais vous voulez qu'on vous engage pendant que l'entreprise de communication ne cherche pas de théologien. Alors c'est à nous, maintenant, l'ONEM, qui divulguons, qui un jour, autour d'une table ronde avec le ministère de l'Enseignement, pour commencer à dire, voilà les besoins du marché de l'emploi, qui sont les entreprises, l'entrepreneuriat et les projets. Et puis, est-ce qu'il y a moyen de réformer les systèmes éducatifs? Et ceux qui pleurent, oh, ça fait 9 ans que j'ai la carte, etc. Vous avez opté pour quelle option?
Quelqu'un vous a, Emmanuel de Bouni a dit combien de jeunes ont trouvé de l'emploi grâce à l'ONEM.
Je vais éclairer cette histoire-là. Quand on parle de l'emploi, combien de personnes ont trouvé de l'emploi? C'est au travers des contrats de travail. C'est nous qui visons les contrats. Et chaque année, nous sommes dans les 70 000, la moyenne, je donne la moyenne, dans les 70 000 contrats qu'on a visés par an. Vous comprenez un peu? Mais les jours où nous allons créer d'autres entreprises, on peut doubler, tripler. Et puis, nous avons aussi le problème du secteur informel. Il y a un projet sur la transition de l'informel au formel. Ce sont aussi des emplois. Parce que d'abord, nous-mêmes, nous avons une mauvaise appréhension du terme emploi. Comme vous venez de dire, M. Stani, quelqu'un qui est pompiste dans une station, il dit qu'il cherche de l'emploi. Et quand je lui dis, mais explique-moi, il dit, j'ai besoin d'un numéro matricule. C'est ça sa définition. Vous et moi, si chez vous, monsieur, je dis, vous avez une bonne, vous avez un domestique, un gardien. Pourquoi vous l'appelez moi Namoussa là, même s'il est plus âgé que vous? Vois comment nous-mêmes nous minimisons même les termes.
C'est un travail.
Même, on l'appelle même Boy. Nous-mêmes, nous avons déjà un problème. Moi, j'ai été dans un supermarché, quelqu'un me dit, excusez, vous êtes travaillé à l'ONEM, vous venez me chercher du boulot, mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, ça, c'est pas le boulot. Nous avons un problème de définition. Ici, nous devons y ajouter aussi l'aspect informel. Heureusement que la nouvelle équipe a accepté à ce que nous puissions mettre en exergue le projet de la transition de l'informel vers le formel. Mais que la personne qui a posé la question ainsi que ses amis, que changeons quand même la définition des termes emploi.
Donc l'ONEM a aujourd'hui une nouvelle équipe dirigeante qui apporte un nouveau souffle et qui veut changer les choses.
Un nouveau souffle, vraiment, qui veut changer vraiment les choses.
Quelles sont les grandes innovations que les nouveaux dirigeants veulent apporter, M. Stani?
Voilà, je pense que j'aurai le temps de revenir sur les innovations pour... je vois les temps s'effriter. Vous savez, dès leur arrivée, la première chose qu'ils ont faite, les dirigeants, c'est... fixer les gens sur la gratuité des services de l'ONEM. Ça m'étonne que les gens continuent de dire qu'ils payent, ils payent pour avoir la carte. J'aimerais, parce que c'est simple, il a même mis à publier les numéros de contact, ok? Il reste à savoir seulement celui qui a été, comme ça, soudoyé, qui viennent dénoncer pour voir des sanctions tomber.
Donc désormais, la carte n'est pas payante.
Elle a toujours été gratuite. On n'a jamais dit, alors jamais, mais... il fallait fixer l'opinion parce qu'il y avait de plus en plus de plaintes comme ça. On est allé même jusqu'à à distinguer nos agents parce qu'il y a des chasibles maintenant. Parce que c'est quoi? Vous savez, le service d'État, quand vous arrivez, il y a des gens qui vous entourent comme des vautours là-bas. Oui. Allez au casier judiciaire, allez même à l'ambassade, aux affaires étrangères pour les passeports, vous voyez. Oui. Tout le monde sait que le passeport c'est à 90$, mais vous-même, vous savez, si vous avez le passeport, vous l'avez à combien? Donc, ce n'est pas les agents de l'ONEM forcément. Mais, oui, je vous dis.
Tous les vautours.
Voilà, les vautours, ils viennent. Alors, nous avons tout fait pour finalement distinguer nos agents. De façon à dire, c'est parce qu'on confondait, parce que nous sommes aussi au niveau des communes. Donc, alors, ils ont fait cela. Comme ça, on saura qui a fait quoi. De toute façon, si on tombe sur un agent qui vous demande de l'argent, dénoncer, il va être sanctionné. Deuxième action, parce que l'ONEM devait répondre, n'est-ce pas, aux attentes de la population, ils ont lancé la redéfinition du cadre organique. Vous savez, ça va avec le travail. Il faut que le cadre organique soit adapté aux exigences, qui évoluent aussi. Ça, c'est le travail qui est en cours. Je pense qu'aujourd'hui, même si vous venez à l'ONEM, aujourd'hui à 15h, vous allez trouver l'équipe qui va, n'est-ce pas, jeter un coup d'œil sur ce qui a été fait. Donc, ça, c'est du concret. Troisième innovation, c'est la numérisation. Moi, je ne vous parle pas des spéculations ou de ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils font déjà. Après demain, on a une réunion pour valider le cahier des charges de la plateforme, parce qu'on va lancer l'appel d'offres. Pendant le mois de mars, consultez l'Internet. Vous allez voir cet appel d'offres. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez l'appeler. Parce que la numérisation répond à toutes les préoccupations. Quelqu'un dit, il y a des milliers de demandeurs d'emploi. Comment l'ONEM va faire pour,
c'est ça. Ah, voilà, pour les aider à trouver de l'emploi?
Parce que j'ai l'occasion de travailler sur ça. C'est une plateforme Internet qui est centralise. Tout le monde, à partir de partout, il peut s'enregistrer à l'ONEM. Ça va résoudre ce problème de, il y a seulement des chauffe-liers et tout ça, donc partout. Ça m'étonne. Les demandeurs peuvent manquer de l'argent pour venir au bureau de l'ONEM. Mais il manque jamais de méga. Alors, c'est une occasion. À partir de son téléphone, il peut s'enregistrer, ok? Et l'avantage, c'est que ça résout vraiment tout. L'enregistrement vous génère votre CV et puis vous met en contact avec l'employeur qui lui aussi cherche.
Monsieur Kitenge, on revient aux questions de Maître Omar de Kinshasa. Il parle de causes du faible accès à l'emploi, c'est quoi un emploi, et puis voilà, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
D'abord, par rapport à ces questions-là, tout le monde pose des questions que par rapport aux licenciés ou à ceux qui étudient. Nous donnons l'information en vous disant que l'ONEM s'occupe aussi des personnes qui n'ont pas d'instruction. L'ONEM s'occupe aussi des personnes vulnérables. Tout le monde a droit à l'emploi d'après la Constitution. Donc, est-ce qu'on peut les nettoyer notre cerveau par rapport à cela? Mais répondons quand même par rapport à la question. Pour comment accéder à l'emploi? Je l'ai dit au début. L'emploi et fonction a une corrélation avec l'existence de l'entreprise. Et s'il y a des gens qui ont une notion de la comptabilité, est-ce que vous savez que quand on vous engage, vous êtes une charge? Ceux qui ont fait la comptabilité savent que, à l'époque, le compte 65, aujourd'hui avec Ouadas, le compte 66, charge du personnel. On est une charge. Ce n'est pas une église qui cherche les gagnants d'âme. Donc, vous êtes une charge. Vous devez être vraiment compétent. Et l'ONEM vous aide pour l'amélioration de l'employabilité. Et non seulement on vous livre la carte, mais on vous approche pour améliorer votre employabilité, pour développer vos compétences et répondre aux besoins des entreprises. Mais quand vous vous arrêtez chez vous, vous ne voulez pas venir, vous arrêtez à l'ONEM, l'ONEM malheureusement n'a pas de prophète pour savoir que vous êtes chercheur d'emploi. Alors, donc c'est pour dire que nous demandons à tout le monde de s'approcher de l'ONEM. Ça nous aide à avoir des informations. Nous avons combien qui ont tel niveau, nous avons combien qui ont telle filière, quels sont les besoins, nous faisons un matching et maintenant ça nous aide à aller encore plus vite. Mais si vous restez chez vous, comment nous saurons que vous êtes ingénieur pétrolier et que peut-être il y a un mining qui est en train de chercher, mais vous, vous ne vous enregistrez pas. Quel jour on va vous contacter? Veuillez vous enregistrer. Et maintenant là, nous sommes en train d'aller vers... c'est un peu de sensibilité aussi le ministère de l'enseignement. Pour connaître un peu, heureusement qu'on a commencé avec l'MD, mais pour connaître un peu de rénover au niveau de nos formations. Puisque la plupart des gens qui sont formés, je ne vais pas citer ces filières-là, alors ils sont là pour fêter les anniversaires des chômages. Alors nous devons vous informer. Alors approchez l'ONEM. Oui. Nous avons notre site. Même si vous entrez, vous allez sur la page Google, YouTube, tout ça, l'ONEM est là.
C'est par ici que prend fin votre magazine Bana Okapi. Bana Okapi a traité ce jour le sujet sur le chômage chez le jeune. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net et sur la page Facebook de Bana Okapi. Grâce à Mvuezolo, Murphy Fika, Jeff Opela, Greta Lulendo, Clarisse Kapinga de la radio communautaire Nissi de Goma ont coproduit ce magazine. Gisèle Cage était à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Mise en onde de Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa, je suis Stanislas Diomi. Bye bye.